RCF.
6h30, 9h, la matinale RCF, Simon Marty.
Et le journal de 6h30 nous est présenté ce matin par Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Et tout d'abord, il est resté totalement impassible à l'énoncé du verdict. Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.
Le procès des attentats du 13 novembre s'est achevé hier soir. 19 des 20 accusés reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. On y revient dès le début de ce journal. On connaît le nom des 6 nouveaux vice-présidents de l'Assemblée. Parmi eux, 2 députés Rassemblement National. C'est une première. Les élus de gauche accusent la Macronie de complaisance avec l'extrême droite. Et puis l'établissement français du sang publie pour la 2e fois de son histoire un bulletin d'urgence vitale. Les réserves sont au plus bas. Plus de 6 ans après les attentats djihadistes du 13 novembre qui avaient coûté la vie à 130 personnes, la Cour d'assises spéciale de Paris a donc rendu son verdict hier soir. Le terme d'un procès historique qui aura duré 10 mois, 149 jours d'audience. Clara Gabillet, bonjour.
Bonjour.
Le seul membre encore en vie des commandos terroristes écope de la peine maximale.
Et oui, Salah Abdeslam a été condamné par les magistrats à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté incompressible. Celle-ci rend quasiment impossible toute remise de peine. Il s'agit en fait de la peine la plus lourde du code pénal français. Et si la justice est allée jusque-là, ce n'est pas pour l'assassinat de 130 civils, mais bien pour la tentative de meurtre sur des policiers du Bataclan. Le terroriste franco-belge est le seul accusé à avoir été reconnu comme co-auteur des attaques. La cour a estimé que ces attentats pouvaient être pris comme une scène de crime unique. Les magistrats n'ont pas été convaincus par la défense de Salah Abdeslam, qui assurait avoir intégré le commando terroriste au dernier moment et avoir renoncé à faire sauter sa ceinture explosive par humanité.
Et puis au-delà du cas Abdeslam, Clara, les 19 autres accusés ont aussi écopé de peine de prison.
Et oui, de 2 ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour les plus petites condamnations, certains des accusés comparaissaient libres hier soir et n'iront pas en prison. Ils ont déjà effectué leur peine avant le début du procès. Il s'agit en fait des petites mains. Parmi les autres accusés, on peut citer Mohamed Abrini, le Belge de 37 ans, condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté, coupable d'avoir participé aux préparatifs des attentats.
Merci Clara Gabillet. Voilà pour le détail de ces peines. Écoutez à présent la réaction de Sacha Golzan, avocat des parties civiles.
C'est jamais une satisfaction pour un avocat, y compris en partie civile, de voir des accusés condamnés à des peines extrêmement lourdes ou à des peines faibles. J'ai pas vraiment à me positionner sur la nature des peines qui ont été prononcées par la cour d'assises. Pour mes clients qui étaient au Bataclan, il était très important que ce procès-là ait lieu parce qu'il mettait un terme, il fixait une nouvelle étape dans leur processus de reconstruction. Et à ce titre-là, les motivations étaient importantes. C'est évidemment essentiel que la justice mette hors d'état de nuire des personnes qui sont dangereuses pour la société. Et certaines d'entre elles, une grande majorité, ont été reconnues coupables d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Et donc, à ce titre-là, on peut être satisfait du débat contradictoire qui a mené à ces sanctions.
Sacha Golzan, avocat des parties civiles. À l'issue de cette 149e et dernière journée d'audience, la page n'est pas entièrement tournée. La défense et le parquet sont susceptibles de faire appel de ces décisions. Ils ont 10 jours pour le faire.
Dans le reste de l'actualité, Thomas, c'est un poste stratégique qui est en jeu à l'Assemblée nationale.
Et oui, les députés doivent élire aujourd'hui le président de la commission des finances, qui revient par tradition à un membre de l'opposition. Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national et Éric Coquerel de la France insoumise vont se disputer le poste. L'alliance de gauche qui accusait hier la majorité présidentielle relative de complaisance avec l'extrême droite après l'élection de 2 vice-présidents RN, une première dans l'histoire de l'hémicycle. Les députés qui sont par ailleurs convoqués mardi prochain pour assister au discours de politique générale de la première ministre. La possibilité d'un vote de confiance toujours en question. Bref, la vie parlementaire de la nouvelle assemblée suit son cours. L'occasion ce matin de se pencher sur un métier aussi invisible qu'essentiel, celui de collaborateur parlementaire. Conseil juridique, conseil politique. Ils participent activement au travail de leurs députés. Ariane Forgue est collaboratrice d'une députée de la majorité, Caroline Janvier. Elle est aussi la nouvelle présidente de l'Association des collaborateurs progressistes.
Il y a des aspects sur lesquels on sent l'impact que l'on a en tant que collaborateur parlementaire sur des sujets spécifiques. En général, ce sont les collaborateurs qui écrivent les amendements des députés. Et il n'est pas rare que ce soit les collaborateurs qui lancent l'idée ou la la spécifient au niveau juridique. Et évidemment, ils servent aussi de conseillers politiques et juridiques à leurs députés. Et là où on a effectivement un sentiment d'être utile, sans grandiloquence excessive, mais d'être utile au pays, ou en tout cas à l'intérêt public, l'un des exemples les plus marquants, à mon sens en tout cas, consiste à avoir un amendement sur lequel on va travailler, voire que l'on a initialement proposé soi-même à son député, intégré dans un texte de loi. Là, on se dit, voilà, j'ai contribué de façon effective à ce sujet.
Voilà, et on reviendra sur ce métier de collaborateur parlementaire dans le dossier de la rédaction tout à l'heure après le journal de 7h. Le gouvernement versera bien le chèque alimentaire de 100 euros aux 9 millions de Français les plus modestes. Confirmation hier de la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire. Cette aide d'urgence sera soumise le mois prochain au vote des parlementaires dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour tentative de viol contre Damien Abad. Cela fait suite à la plainte déposée contre le ministre des solidarités en début de semaine concernant des faits qui se seraient déroulés en 2010.
Dans la série des pénuries, voici désormais celle du sang.
Le niveau des réserves est très bas dans la perspective de l'été. L'établissement français du sang a publié hier un bulletin d'alerte vitale, son deuxième en l'espace de 6 mois. Pour inciter les Français à se mobiliser pour le don du sang, la vie de nombreux patients est en jeu, rappelle Hervé Morad. Il est responsable de la collecte et de la production à l'EFS.
Il y a les personnes atteintes d'un cancer et qui ont des chimiothérapies, qui ont besoin d'avoir des transfusions sanguines. Il y a des personnes qui sont atteintes de maladies du sang, comme les drépanocytoses et la thalassémie, qui ont des transfusions régulières tout au long de leur vie. Après, l'utilisation se fait aussi pour des interventions chirurgicales, des accidents de la route ou des accouchements qui peuvent présenter des difficultés qui nécessitent des transfusions à cause d'hémorragies importantes. Et dans ces différentes pathologies, donc, il y en a qui sont programmées, qui sont faites à l'avance, et d'autres qui sont des situations d'urgence qui nécessitent une disponibilité immédiate du produit. Demain, vous pouvez tous soudainement avoir besoin d'une disponibilité d'une poche de sang. C'est pour ça qu'il est nécessaire en amont de participer pour pouvoir répondre aux besoins des patients dans les hôpitaux.
Voilà, et si vous voulez donner votre sang, rendez-vous sur le site internet don200.efs.sante.fr. Le sommet de l'OTAN se poursuit à Madrid. Les 30 pays membres ont promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire face à la cruauté de la Russie. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé, je cite, les ambitions impérialistes de l'Alliance qui cherche à affirmer son hégémonie. Quelques progrès, mais peut mieux faire malgré une tendance à la baisse des émissions. L'action climatique de la France est toujours insuffisante, a jugé hier le Haut Conseil pour le climat, qui réclame un sursaut pour éviter le risque majeur de ne pas atteindre les objectifs renforcés pour 2030.
Et puis Thomas, le sanctuaire marial des Hautes-Pyrénées lance ce jeudi ses nuits de Lourdes.
Et oui, au programme pendant tout l'été, ode musicale, procession au flambeau et messe nocturne à la grotte, une immersion au cœur du sanctuaire pour permettre aux pèlerins habitués ou de passage de s'imprégner de la beauté de ce lieu. Le recteur du sanctuaire marial, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, vous le savez, quittera Lourdes à la fin de l'été après 3 années passées à la tête du sanctuaire. Il deviendra au 1er septembre le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, une mission qu'il accueille avec humilité.
Vous savez, l'humilité, on ne peut que l'avoir lorsqu'on est au pied de cette cathédrale. Humilité devant ceux qui l'ont construite pour la gloire de Dieu. Humilité aussi devant les pompiers qui l'ont sauvé, parce qu'il s'en est joué de peu, et je suis très reconnaissant devant l'héroïsme de ces hommes qui, en 2019, ont fait que cette cathédrale est toujours debout. Humilité aussi devant la très riche histoire de cette cathédrale, qui est un symbole universel, et l'émotion suscitée dans le monde entier par son incendie montre bien que son rayonnement dépasse largement Paris, la France, mais qu'elle rayonne dans le monde entier, parce que c'est un lieu source. Et c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu d'unité, en n'oubliant pas que c'est un lieu de culte qui a été élevé pour que la liturgie y soit célébrée.
Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, que vous entendrez plus en longueur tout à l'heure dans l'actu chrétienne. Et puis Simon, je ne pouvais pas terminer ce journal sans vous dire que le record du monde de la tarte flambée la plus longue a été battu par des Français, et pas n'importe quel Français évidemment, de vrais experts en la matière, puisqu'il s'agit de Strasbourgeois. Les étudiants strasbourgeois d'une école de communication de la ville ont préparé et cuit une flamme cuve de 38 mètres 80. Et donc, c'est 4 mètres de plus que le précédent record. C'est c'est ça qui me marque le plus. Il existait un précédent record, donc de 34 mètres. Et là, ça a été repoussé à 38. Donc, bravo à ces étudiants strasbourgeois.
Et surtout, moi, j'aimerais bien savoir s'ils l'ont mangé et en combien de temps est-ce qu'ils l'ont mangé. Ça me fait penser à la personne qui avait mangé du magret. Vous vous souvenez de cette histoire que vous avez racontée, il me semble?
Oui, le champion de France du magret.
C'est ça, qui mangeait ça avec des couverts en plastique pour compliquer sa tâche. Donc là, l'histoire ne nous dit pas s'ils avaient des couverts en plastique pour manger la tarte
avec les mains
après.
On
peut imaginer, exactement. Merci beaucoup, Thomas Dulin. On se retrouve à 7h30.
À tout à l'heure, Simon.
À tout à l'heure, Thomas. Voici la météo.